Ça pourrait être le titre d'un bouquin, du côté de chez Tizi. Eh bien, il est professeur d'histoire-géographie. Il nous propose sa 15e émission depuis le début du confinement, à destination des terminales au départ. Et puis, à partir de lundi, ce sera à destination des premières et ensuite des secondes. Voilà, ce sera réparti comme ça du lundi-mardi pour les premières et le jeudi pour les secondes. Voilà, enfin, on vous tient informé de toute façon de la suite donné à ce magnifique projet qui nous a permis de bien nous occuper et donner du sens à notre action à destination des autres, car sans les autres, nous ne sommes rien. Globalisation, uniformisation, c'est le thème aujourd'hui de l'intervention de Serge Tizi. Je vous propose de le retrouver. Il est 9h24.
Bonjour, chers élèves, auditeurs, auditrices de Fréquence Mistral Manosque. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à la question « Assistons-nous à une américanisation du monde à travers la globalisation ?» Donc, la crise du Covid-19 nous donne un exemple d'interaction de l'humanité. Ce qui se produit à un lieu X de la Terre a une incidence sur l'ensemble des habitants. D'un point de vue médical, c'est une première pour nous, pour notre génération, depuis la grippe asiatique de 1957, ou celle espagnole des années 1918-1920. Mais ce n'est pas la première, et l'Organisation mondiale de la santé est là normalement pour nous de sonner l'alerte si les États transmettent les bonnes informations au bon moment. La globalisation est l'aspect culturel de la mondialisation qui est, elle, plutôt économique. C'est un phénomène clivant. D'un côté, il y a, dans le terme de globalisation, l'affirmation que nous avons une culture commune, et de plus en plus commune. Et les exemples sont multiples. Politiquement, notez que le monde vote. Tous les citoyens, même dans la pire dictature, vont voter. Comme si cet acte éminemment démocratique allait de soi avec une légitimité politique. Même dans les régimes théocratiques comme le Vatican et l'Iran, on vote. Urbanistiquement parlant, nous assistons à une urbanisation des humains. Le monde urbain qui avance et qui gagne en intensité et en surface, eh bien, entraîne aussi une civilité urbaine qui devient en fait l'alpha et l'oméga de la vie des humains. Donc, d'où l'accès, par exemple, à l'automobile, à l'électroménager, à des standards communs de travail, que ce soit les usines, les open space, les bureautiques, etc. Culturellement, les systèmes scolaires sont mis aussi en concurrence par des critères PISA qui sont discutables, comme les critères de Shanghai pour les universités, mais qui ont l'avantage d'exister et de pouvoir comparer un peu les systèmes entre eux. Assistons-nous cependant à une américanisation de cette globalisation. Alors, bon, quand on dit américanisation, c'est-à-dire qu'on vivrait en fait tous comme des Américains. Alors, c'est un peu vrai pour les Européens et pour les Japonais, pour des raisons historiques. Pour les Européens, parce qu'il faut jamais oublier qu'un Américain n'est rien d'autre qu'un Européen qui a réussi à traverser l'Atlantique sans croiser un iceberg. Et puis, pour les Japonais, l'occupation américaine, comme en Corée du Sud, par exemple, l'occupation américaine ou la présence américaine des forces américaines ont fait que la société japonaise s'est occidentalisée. Et n'oubliez pas, c'était le pays qui s'est occidentalisé le plus rapidement et le plus fermement à partir des années 1864. Assistons-nous à une américanisation de cette globalisation ? Sans doute, c'est le cas dans certains domaines. Effectivement, si on regarde les fast-food et leur diffusion à travers le monde, que ce soit les McDo ou KFC et autres restaurants, si je peux appeler ça ainsi, rapides, effectivement, nous assistons à une américanisation de l'alimentation à travers le monde. C'est vrai pour McDo, c'est vrai aussi pour des copier-coller, c'est vrai aussi pour les vêtements, vêtements, le jean, les baskets, le t-shirt, tout ça, c'est bien l'American Way of Life qui se mondialise. Les styles des centres d'affaires sont liés et copient le modèle américain de Central Business District. Ça, on peut le voir si on va bien sûr du côté de la Défense à Paris, mais si on va au Japon, si on va en Chine, à Shanghai, à côté du Bund, nous retrouvons ces skylines que l'on voit sur tous les feuilletons et les films américains désormais. Vous avez les lotissements d'habitation, bien sûr, hein, qui répondent au modèle de la maison individuelle, du rêve américain, au même titre que la voiture est le symbole partout de votre réussite et de la réussite de chacun. Avoir sa petite maison, avoir son automobile, eh bien, c'est pour chaque personne qui appartient à travers le monde à une classe moyenne ou qui voudrait appartenir à la classe moyenne, eh bien, c'est un des symboles visibles. Les Américains ont des SUV, eh bien, nous voulons aussi des SUV, même si nos rues, nos avenues ne sont pas faites pour ça, ben nous on en veut. Ils ont des camping-cars immenses, eh ben nous voulons aussi des camping-cars immenses. Les femmes américaines ont des chirurgies esthétiques, ben nous faisons aussi des chirurgies esthétiques, et quand j'ai 60 ans ou 70 ans, eh ben je vais en paraître 40. Et si les hommes sont bodybuildés, eh bien il faut nous aussi être bodybuildés. Donc la mode est aux mains des grandes puissances, que ce soit les arts, la musique, les vêtements, il faut bien sûr, quand on est artiste, il faut un mécène, il faut une boîte de production, il faut de la publicité pour que votre production soit mondiale, il faut des mannequins, et puis c'est tout ceci est fait dans les pays de la triade, notamment aux États-Unis, hein, puisque c'est le pays qui est phare dans tout ce qui est publicité et information. Donc les canons de la beauté sont fixés par ces agences Elite et compagnie, c'est eux qui fixent la taille minimale d'une femme, c'est eux qui fixent sa corpulence, c'est eux qui fixent son poids, c'est eux qui fixent est-ce qu'il faut qu'elle soit blonde, brune, rousse et compagnie. Eh bien, en fonction des modes, des us et coutumes, eh bien on peut avoir ça et on peut le choisir. Donc c'est eux qui choisissent. Les sociétés occidentales étant de plus en plus multiculturelles et le voulant le montrer de plus en plus ardemment, surtout depuis les années 80, eh bien, il faut des personnes de couleurs différentes. D'autant plus que, comme Internet diffuse immédiatement l'image que vous propulsez, eh bien, il faut que la pub, la série et la chanson puissent répondre aux attentes de toute personne qui la regarde. Et toute personne, qu'elle regarde Netflix, ou qu'elle regarde Disney, ou qu'elle regarde un film, eh bien, doit pouvoir se voir sur ce film et sur cette publicité, que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans une salle de cinéma. Donc, en fait, l'image, c'est un peu l'image de ces entreprises ou qu'elles diffusent, c'est un peu les envies de mon moi possible, qu'il soit virtuel ou réel. Voilà comment je m'imagine être. Ah, je voudrais être une princesse. Ah oui, mais bon, moi, je veux être aussi une Barbie. Donc, Barbie, eh ben, elle est devenue noire, elle est devenue asiatique, elle est un peu plus grosse. Voilà, donc, c'est plus seulement la petite, charmante petite blonde qui pouvait plaire qu'aux Européens. Donc, on a le but en fait de cette entreprise de globalisation, c'est bien sûr de répondre à la mondialisation, hein. C'est-à-dire nous sommes bien sûr nous sommes des citoyens, mais nous sommes aussi des agents économiques. Nous devons vendre et acheter, et si on veut vendre et acheter, il faut qu'on puisse se voir dans le produit et pouvoir en avoir envie. Et quoi de mieux pour en avoir envie que de voir je suis un noir africain, je vois un noir dans un pull, moi aussi je peux me le payer, et moi aussi j'ai envie de l'avoir. Donc c'est une façon de vendre un peu tout ce qu'il faut. Et remarquez bien, en ce moment, dans toutes les publicités, vous avez au moins une personne qui est, on va dire, asiatique. Et pourquoi? Parce que c'est un des grands centres de commerce mondial et que toutes les entreprises ont envie de vendre en Asie, donc il faut que la personne puisse s'identifier. Donc vous avez, en même temps que ça, quelque chose qui est assez paradoxal, parce que souvent on n'en parle pas, mais c'est une augmentation des droits et une réclamation de droits nouveaux. On a beaucoup parlé ces dernières années, à juste titre, du mouvement, et malheureusement du mouvement MeToo, mais les droits de la femme sont de plus en plus revendiqués, y compris dans des pays où traditionnellement on n'avait avaient plutôt l'impression qu'elles n'en avaient pas le droit et qu'elles n'avaient pas le droit de on va dire grossièrement, enfin grossièrement non, mais on va de parler. Donc et de revendiquer. Eh bien non, ben les femmes revendiquent partout des droits. Vous avez des manifestations d'indiennes contre les mauvais traitements infligés en Inde aux femmes. Vous avez des manifestations aussi contre les viols, contre l'excision, que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres en Argentine. Vous avez des manifestations pour le droit à l'avortement malgré la pression des religieux. Vous avez, je l'ai déjà dit la dernière fois quand j'ai parlé de l'Afrique, mais un accès de plus en plus important à la contraception, qui est, je le rappelle, un droit chez nous depuis pas si longtemps que ça, en fait, hein, si vous réfléchissez bien, les femmes françaises ont le droit à la contraception qu'à partir de 1971. Donc, et encore, c'était pas obligatoirement remboursé. Droit de conduire en Arabie Saoudite, si on avait dit ça il y a 10 ans, tiens, une Saoudienne va pouvoir conduire seule sans l'autorisation de son mari, de son oncle et compagnie, en Arabie Saoudite, on aurait dit, c'est pas possible. Donc, vous avez ces droits-là qui avancent. Alors, c'est sûr, c'est pas encore partout parfait, mais disons que ça avance. Il faut regarder les choses aussi de façon positive. Donc, globalement, même si on peut voir des fois des dirigeants qui nous surprennent, hein, y compris dans la grande puissance américaine ou nos charmants Anglais à côté. Hein. Donc on a des droits de l'homme qui avancent. On a même dans des pays qui sont autoritaires ou dictatoriaux, vous avez des contestations. Il faut jamais oublier les contestations en Iran. Il faut jamais non plus oublier les contestations en Chine. Vous avez des contestations en Algérie. Les gens supportent de moins en moins l'autoritarisme d'un parti ou d'un président. Et quand ils le soutiennent, c'est parce que ils donnent autre chose en échange. En Chine, si ça tient, c'est que Xi Jinping pour le dire, mais écoutez, avec moi, la Chine deviendra une grande puissance et vous appartiendrez tous un jour à la classe moyenne. Donc n'oubliez pas, plus rien ne peut être caché très longtemps. Même si les journalistes payent le prix fort de la non-liberté de la presse, hein, journalistes, caricaturistes, dessins de presse, dessinateurs de presse, ils sont embêtés partout dans le monde. Voilà, même en France, hein, avons-nous une culture commune dominée par les Américains? Alors, on a pu le croire après la victoire du communisme sur le communisme des Américains en 1992. On a pu le croire, on va dire, grosso modo jusqu'en 2008, jusqu'à la crise des subprimes. L'hyperpuissance américaine était telle, hein, voilà, c'était une hyperpuissance militaire, c'était une hyperpuissance économique, elle était politique, et le faisait croire, hein, le laissait croire, hein. D'autant plus qu'Internet était là majoritairement très anglophone, hein, dans les années 1996. Quand moi j'ai découvert Internet, c'était en 1992, donc quand j'ai découvert ça, tout le monde était en anglais, toutes les pages étaient en anglais, il y avait quasiment rien en français. Bien, alors, et toutes les publicités dans les années 90-2000 disaient toutes « Are you ready ?» hein, et vantaient le « American way of life », le « American dream » pour tous, de Moscou à Hanoï, en passant bien sûr par Ulaanbaatar en Mongolie. Donc l'élection d'Obama a été un peu le pinacle, hein, de cette américanisation et de cette illusion de l'américanisation planétaire, avec Yes We Can, qui était en fait là un Yes We Can pour nous tous, hein, on y a tous cru. Donc seulement attention, si le modèle US est mondialement apprécié parce que c'est un modèle facile, je le dis souvent, mais manger un hamburger debout ou avec des copains, c'est quand même plus facile que de manger une daube en pleine nature ou dans votre automobile. Essayez de voir, hein, c'est vachement sympa. Bon, on peut manger des pâtes dans des box, mais enfin, c'est pas véritablement la meilleure solution de manger des pâtes, mais enfin, voilà, ça et les pizzas. Et les donneurs kebab. Donc, justement pour ces donneurs kebab, terminons par ça. Oui, effectivement, on peut avoir une mondialisation qui est une américanisation, mais il faut faire très attention à pas être trop dans les généralités. Vous avez par exemple des produits qui se mondialisent en même temps que nous avons une mondialisation. Qui aurait cru que il y a 15 ans, 20 ans, que ici en Provence, par exemple, on mangerait des sushis aussi facilement que des pizzas? Personne n'aurait cru que les mangas deviennent une des littératures préférées de la jeunesse, même si on lit à l'envers. Qui aurait cru que après après un démontage symbolique et pacifique de José Bové d'un McDo à Millau, eh bien McDonald's changerait son enseigne qui virerait du rouge vers le vert. Vous voyez bien un peu ce greenwashing qui est dedans. D'ailleurs, greenwashing, écoutez bien, c'est de l'anglais. Donc nous avons donc depuis pour McDo qui s'est transformé en vert et qui vous vend des McDo maintenant qui ne sont plus faits avec du cheddar mais avec un semblant de fromage français. Donc voilà, McDo comme Ikea d'ailleurs qui doit composer ils doivent composer avec les us et coutumes des clientèles et les goûts des clientèles qui ne sont pas les mêmes d'un bout à l'autre du monde. Voilà, alors Ikea par exemple n'arrivait pas à vendre ses meubles en Inde pour une raison très simple, c'est que la classe moyenne n'aime pas véritablement monter les meubles. Donc bon, elle trouve que c'est du temps perdu et puis de toute façon c'est pas eux de faire ça. Donc Ikea a embauché des pauvres dans les bidonvilles jouxtant les immeubles où habite cette classe moyenne qui achète du Ikea pour monter les meubles à la place de ceux qui viennent de l'acheter. Je vais revenir aussi sur la langue. Donc, si l'anglais est bien la langue internationale, économique et universitaire, j'invite toujours mes élèves et je vous invite, chers auditeurs, à vous mettre sérieusement à l'anglais, ne serait-ce qu'en regardant Netflix avec les feuilletons en anglais, c'est toujours mieux qu'avec des traductions un peu bizarres. Donc, si l'anglais est encore dominant, il ne l'est plus véritablement sur Internet. Aujourd'hui, les blogs, les publications sur Internet en anglais ne représentent que plus que 26% des publications totales sur Internet. Alors, c'est vrai que l'anglais doit être l'anglais dominant, mais n'oubliez pas d'autres langues, et notamment le français, qui est la langue étrangère la plus apprise dans le monde. Ça, il faut le savoir, et son grand pôle de développement, n'en déplaise à certains ici, mais son grand pôle de développement, c'est l'Afrique. L'Afrique noire, francophone, même anglophone. Et puis, vous avez aussi, il faut jamais oublier quelque chose de ce type, vous avez aussi la présence dans tous les pays de lycées français qui sont des capteurs d'élite locale. C'est-à-dire que vous avez des élites, que ce soit au Maroc, en Tunisie, un peu partout, qui décident que leurs enfants iront dans les lycées français qui sont très chers pour eux et par la même occasion, ça fait un soft power français. Donc ne pas oublier ça, ne pas oublier non plus, et je le dis aussi aux élèves, d'avoir une langue étrangère spéciale à côté. C'est ce que j'appelle souvent la cerise ou les cerises sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est très bien de parler l'anglais, c'est très bien de parler le français, mais c'est encore mieux de savoir en plus une langue comme le mandarin, l'hindi, l'allemand, l'espagnol, le portugais et l'arabe classique par exemple. Pour toute personne qui veut participer à la mondialisation, c'est la base. Donc avoir déjà l'anglais avec soi, ça c'est déjà une première base, mais avoir en plus une langue un peu pas rare, mais parce que ce sont quand même des langues qui sont parlées par des milliards de personnes souvent, mais avoir une langue comme ça, ça vous fait quelque chose d'un peu plus riche que d'être seulement monolangue. N'oubliez pas non plus les petites langues dont on ne parle jamais. On le rappelle souvent, mais vous avez plus de 6000 langues sur la planète Terre, qui sont parlées par des humains. Sur ces 6000, vous en avez 3000 qui sont en grave danger de disparition parce qu'elles ne sont plus utilisées que dans quelques vallées, quelques îles, et que, bien sûr, le système scolaire pour tous fait en sorte aussi, par une uniformisation nationale dans tous les pays, que, vous avez des langues qui commencent à disparaître. C'était un peu le cas aussi, je le rappelle aussi souvent à mes élèves, qu'au 19e siècle, on parlait différents patois, différentes langues en France, on ne parlait pas obligatoirement que le français. Donc c'est la grande question actuelle, et celle de notre environnement, il ne faut pas l'oublier, de notre survie aussi en tant qu'espèce, et celle des espèces qui nous entourent. L'actualité nous rappelle qu'un petit virus a mis 8 milliards d'humains en confinement. Nous sommes tous à la recherche d'un masque, d'une protection, de solutions qui n'existent pas ou pas suffisamment ou qui sont encore en gestation pour l'instant. La France et la Tunisie ont demandé il y a 15 jours la cessation de toutes les hostilités au Conseil de sécurité pour que la priorité soit le combat contre l'épidémie. Nous assistons cependant depuis quelques jours à un nouveau règlement de compte entre les États-Unis et la Chine populaire. On pourrait quand même se dire que aujourd'hui la priorité n'est pas dans cette lutte, que la priorité est bien dans trouver des solutions pour les humains. Bien sûr, ce n'est certainement pas en ingurgitant de l'eau de Javel. Bien, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, un très bon confinement. Et puis, nous nous retrouverons à partir de lundi prochain pour des émissions qui seront surtout pour des élèves de seconde et de première. Voilà, chers élèves et chers auditeurs, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon confinement malgré tout. Et puis, nous nous quittons avec Imagine de John Lennon.
Sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country it isn't hard to do. To kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You do. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if